Allez, c'est parti.
C'est parti. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Studio Marjorelle. Non mais c'est quand même le micro ASMR.
Ah oui, c'est complètement.
Vas-y, lance le générique. Bla bla bla.
Bienvenue dans Blabla Clap pour ce nouvel épisode dans ce nouveau studio. Donc tous mes autres épisodes étaient enregistrés dans notre ancien studio à Saint-Ouen. Et là, on est dans nos nouveaux bureaux donc du studio Majorelle chez The Family avec le cofondateur de The Family, Oussama Amar. Bienvenue dans le podcast.
Merci. C'est gentil de m'inviter.
T'enchaînes pas mal les podcasts depuis plusieurs années. Toi, t'es un consommateur de podcasts aussi ?
Oui. J'hésite parce que je pense pas que je suis un consommateur d'émissions.
T'écoutes que les tiens en fait, que ceux où tu passes.
Non. Justement, ne jamais écouter ces podcasts avec toutes les conneries que je dis. Je finirai par faire une syncope. Mais je consomme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que des gens me disent ah cet épisode il est incroyable, regarde-le. Et donc j'ai une sorte de curation. Mais je suis pas des. Par exemple, j'ai écouté un podcast de Tim Ferriss avec. Tony Robbins, que j'ai beaucoup aimé, j'ai jamais écouté un podcast de Tim Ferriss avant. Mm-hmm. Donc j'ai pas de... Il y a des gens, ils attendent le prochain épisode d'un podcast, etc. J'ai pas ce genre de truc.
T'as écouté Joe Rogan, par exemple ?
Non.
Jamais ? Avec celle de les interviews d'Elon Musk ?
Oui, il fume de la weed ?
Ouais.
Si, je les ai écoutés. Je savais pas que
il en a sorti une en plus, il y a pas longtemps, là. Une deuxième, où il explique son opinion sur le coronavirus... il parle de Neuralink en plus en détail.
Ouais, je l'ai écouté cet épisode.
Vraiment intéressant. C'est ouf ce qu'il fait quand même.
Bah, Elon, il est. il est déjà sur Mars, quoi.
C'est ça. Mais je trouve que c'est un des rares, du coup, on en parlait l'autre fois de l'accumulation de richesses. C'est un des seuls qui est pas du tout là-dedans. T'as l'impression vraiment, il remet son cash dans le futur
ouais,
et dans
ouais,
le
c'est du marketing ça.
Ah ouais, tu penses?
Elon Musk c'est un des mecs qui vit le mieux.
Non, je suis sûr qu'il est il est moins dans l'accumulation par exemple que Jeff Bezos, j'ai l'impression.
Non, c'est juste qu'il est moins riche. et il a des boîtes qui valent beaucoup moins d'argent, c'est tout.
OK.
Non, c'est du marketing. Après c'est un marketing qui est intéressant parce que en fait Elon Musk il a réussi à bâtir une image où tu as l'impression qu'il monte une fusée avec le pied droit. Il code un truc d'intelligence artificielle avec la main gauche pendant qu'il éduque son fils de la main droite. Et donc t'as ce côté comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est comme tout marketing. Ça veut pas dire qu'il y a pas une part de vrai. Faut juste voir où est la limite en fait. Et évidemment, un Jeff Bezos, il est plus chill. Mais bon, il est quand même beaucoup plus riche. Faut jamais oublier que on parle d'une population dont les revenus sont très inégalitaires. Si t'as $1 milliard sur un compte. Et que t'as un dîner avec Bill Gates, t'as l'impression d'être très 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 pauvre.
Ouais.
Donc,
on se rend pas compte en fait de la différence d'échelle entre 1 milliard et juste 100 milliards, quoi.
Ouais, mais c'est une très 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 grosse différence d'échelle.
Ah, ouais.
C'est 100 fois plus. Donc, et en fait, ces gens-là sont quand même dans des. Je pense que si Elon Musk était beaucoup plus riche, c'est sûr qu'il serait beaucoup plus fun que Jeff Bezos. Ouais. On verrait des trucs complètement dingues. Jeff, il a l'air quand même plus pépère. Ça, bon. C'est pas mentir que de dire ça, quoi.
Et t'as vu, pour revenir au podcast, justement, le podcast de Joe Rogan a été racheté, là, il y a 2 semaines,
par Spotify.
Je sais pas si t'as vu ce deal.
En exclusivité, ouais.
Ouais, c'est ça. En gros, ils lui ont donné 100 millions, enfin, a priori, pour avoir l'exclu pendant un an ou 3 ans, peut-être qu'il a 3 fois 100 millions. On sait pas trop les détails du deal. T'en penses quoi, toi, de ce genre de deal? Est-ce que tu penses, parce que la plupart des gens étaient, yes, c'est génial pour les podcasteurs, ça montre le price point d'un podcast de ce niveau-là, ça nous benchmark tous et tout, c'est cool. Ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, le gars était indépendant, je pense qu'il faisait au moins la moitié de 100 millions par an tout seul, sans aucune boîte autour de lui qui gère ses droits, qui gère tout ça.
Tu penses qu'il faisait 50 millions par an?
Ouais. Vraiment, il faisait vraiment énorme. Parce qu'il est sur YouTube, il a les revenus de YouTube, il a les revenus des plateformes de podcasts parce qu'il fait des pubs dans ses podcasts à chaque fois.
Ouais.
Et rien qu'avec ça, il faisait énormément. Parce qu'il sortait quand même au moins 3 ou 4 épisodes par semaine qui faisaient 10 à 100 millions de vues, tu vois.
Ok. Et donc là, tu penses que maintenant, il va toucher le double, mais avec les emmerdes, quoi.
Non, je pense les emmerdes qu'il a en moins, c'est qu'il a moins de business à faire pour aller trouver des annonceurs et tout. C'est Spotify qui va le gérer automatiquement. Mmh. Et il a un revenu stable. Mmh. Mais il perd potentiellement son audience parce que du coup, il y a des gens qui vont pas vouloir aller sur Spotify. Et les gens qui vont le suivre sur Spotify, c'est pas sûr qu'ils le re-suivent quand il va repartir dans 3 ans s'il est pas content du deal. Mmh. Et surtout, Spotify peut lui faire à l'envers s'ils ont envie. Après, ils peuvent bloquer certains de ses épisodes s'ils sont pas contents, s'il y a une polémique. Alors qu'avant, il était sur son flux RSS. Personne peut le bloquer, quoi. C'est son site, quoi. C'est quand même ouf d'être totalement indépendant de... C'est ça que j'aime bien dans le podcast.
C'est un très très bon argument. Ouais. C'est peut-être une grosse connerie qu'il a faite. Après, greed is good, hein. Les gens font des conneries pour l'argent, c'est courant. Hein. Mais on l'a vu dans la musique hein, pendant des années. Je sais pas, peut-être que les mecs n'ont pas appris.
Mais le pire, c'est que lui, il boycottait Spotify depuis le début. Il disait non, j'irai jamais sur Spotify parce que bah déjà l'argument était juste normal parce que ils rémunéraient pas les podcasts. Mmh. Donc en gros, t'es sur Spotify, ils ont des abonnements premium, mais ils te donnent pas d'argent, alors qu'ils donnent d'argent aux gens qui font de la musique. Donc rien que pour ça, ils voulaient pas, mais ouais, il est critiqué là-dessus et d'un coup, il a switché, tu vois.
Intéressant. Ouais, bah ça doit être un très gros chèque. On connaît le montant du chèque ?
Bah il dit 100 millions.
100 millions d'euros ?
Ouais. Dollars.
De upfront comme ça ou...
Upfront et apparemment 100 millions par an ou peut-être à l'issue des 3 ans.
D'accord. Ouais, c'est beaucoup d'argent.
Ouais, c'est clair. Mmh. Puis il y a peut-être aussi le phénomène coronavirus. Le gars, il gagne beaucoup d'argent aussi avec les spectacles. Mmh. Si c'est dit, je sais pas combien de temps ça va durer. Je me fais un petit coussin de sécurité.
Non, mais en tout cas, il y a un mec chez Spotify qui a été bon en égo, quoi. Ça, c'est sûr.
Puis après, le problème aussi, c'est que ça reste quand même quand c'est pas ton, quand t'es pas un businessman d'avoir à gérer des annonceurs et tout. C'est une tannée.
C'est une tannée, c'est un enfer. Et puis franchement, même quand t'es un businessman. Tu vois, par exemple, je le vois avec mes content perso. J'ai tout le temps des offres. Tu vois, même sur mon Instagram, il y a des gens qui me contactent. Mm-hmm. Des fois, je me dis, bon, tiens, vas-y, on va se faire un billet. Et puis, ta première phrase du mec, je réponds plus. Je dis, putain, j'ai quand même pas parlé avec ce con, quoi. Enfin, c'est un monde rempli de gens très médiocres qui cassent les couilles des créateurs toute la journée.
Ouais.
Et en plus, je pense qu'il y a une surenchère aux créateurs hypocrites qui les traitent vachement bien. Comme ils ont l'habitude d'être vachement bien traités par certains créateurs. Je peux te raconter une anecdote. Moi, je refusais de faire des confs payantes. Le monde des confs payants, c'est un monde très bizarre. C'est des gens, ils payent très très cher pour un truc qui est gratuit sur YouTube. Déjà, il y a un truc bizarre. Et donc moi, je refusais parce qu'à chaque fois, il fallait des trucs. Et un jour, j'ai rencontré une agent qui s'appelle Béatrice Le Cerf. Et elle m'a dit, moi, écoute, moi, je te gère tout. Et je lui dis, et je te prends 10% de com. Et je lui dis, bon, on va jouer à un jeu. Je te donne 30% de com. Okay, ce qui est délirant. Par contre, je ne parle jamais à un client. Jamais. Si le mec, il veut un call, une préparation, un brief, un machin, c'est toi qui fais. Je ne parle jamais à un client. Je viens à l'event. Je fais ma conf. Le client ne peut pas savoir par avance de quoi je vais parler. Il peut pas contrôler de quoi c'est tout. Et le mec, il paye en avance. Et si les gens, ils payent pas en avance, je viens pas. C'est mes conditions. Et si t'arrives à faire ça, bah, tu le fais. Et on a travaillé 5 ans ensemble et pendant 5 ans, on a fait ça. Et c'était dingue parce que je voyais toujours la panique des mecs quand j'arrivais. Parce que comme ils avaient pas pu me briefer, ils avaient tout essayé pour me parler et tout. Et qu'elle, elle était hyper parce qu'elle avait 30% de com. La règle, si je devais faire un call de préparation, elle avait 0% de com. Elle était obsédée par faire barrière. Et en fait, quand t'arrives, et le client, il essaie de te briefer dans le couloir, machin, tu dis, oui, c'est bon, je sais. Après, tu fais la conf, tu fais, ah putain, c'était génial, c'était incroyable. Tu dis, bah oui, mais c'était incroyable parce que t'as pas participé à la préparation, en fait. Et je vois la seule conf où un jour Béatrice est venue me voir en me disant, bon, lui, il est très spécial, on l'aura pas. Et elle m'a dit, toi, t'en as pas besoin, mais moi, j'en ai besoin parce que c'est un de mes gros clients sur d'autres trucs. Mmh. Elle me dit, rends-moi ce service, fais le process. Et j'ai fait le process en entier. Donc déjà, tu fais 3 calls pour parler de ce que tu vas dire pendant la conf. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces calls? Enfin, les mecs ont aucune valeur ajoutée parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Ils te font dire et disent qu'il faut dire des trucs et tout. Et comme créateur, c'est hyper. Tu vois, tu te sens. pourquoi ils pensent
qu'ils se sont jamais mis à ta place. En fait, ils sont jamais montés sur scène pour faire ça.
Et ensuite, arrivé le jour J, j'ai fait la pire conf de ma vie. Parce qu'à chaque fois, j'étais là, ah oui, mais il m'a dit qu'il fallait pas que je dise ça, ah, il fallait, machin. En fait, c'était des conneries, je pouvais dire ce que je voulais, mais ça m'a mis dans un état mental, et j'en ai un souvenir de la pire conf que j'ai jamais donnée de ma vie. Et les mecs, ils étaient, ah ouais, bon, c'était pas terrible, vous avez eu des mauvaises notes et tout. Et en plus, c'est un milieu, c'est très marrant, parce que c'est un milieu où après chaque conf, t'es noté par les participants. Et donc, tu reçois tes notes, tu vois. Moi, j'avais toujours que des super notes, c'est la première fois que j'ai eu des notes pourries. Et j'avais dit à Béatrice, tu vois, je t'avais dit que ça marchait pas avec moi, les préparations.
Mais du coup, pourquoi, qu'est-ce qui s'est mal passé?
Je sais pas. Déjà, j'étais bloqué. À chaque fois que je pensais à une phrase, je me disais, attends, est-ce que ça, c'était dans la prépa ou pas?
T'étais dans ta tête.
J'avais perdu complètement la spontanéité. Et quand tu perds la spontanéité et l'authenticité, bah, t'es beaucoup moins bon. D'un seul coup, tu deviens un speaker. Donc ouais. Et tu dis est-ce qu'il faut dire ça ou pas ça, est-ce qu'il faut machin. Et puis bon, tu tapes 3 calls de préparation, je me suis quand même endormi dans un des calls. En plus je ronfle moi donc mais non c'est terrible. En plus je pense que la liberté c'est un vrai moteur de création et ces gens-là sont des spécialistes en la liberté. Donc effectivement, même quand t'es business guy, te taper les annonceurs, c'est quand même un milieu très particulier, quoi.
Et est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un truc où les créateurs pourraient cut the middleman et avoir, bah, comme Patreon par exemple. Je sais que par exemple il y a un podcasteur au Québec, moi j'ai vécu un an là-bas, qui est le premier podcasteur du Québec, qui fait de l'humour, et il a un Patreon, c'est sa source principale de revenus. Et il fait vraiment beaucoup de revenus. Il fait des petites pubs aussi, mais genre c'est son comptable et genre vraiment pas des grosses marques relou. Et la moitié du temps, il lit mal l'annonce et tout. Vraiment, il s'en fout. Et vraiment, son Patreon marche bien parce que il a non seulement genre il donne accès aux épisodes en avance, il te donne accès au venir assister au podcast, ouais, aux enregistrements, plein de petites avantages comme ça. Et les gens lui donnent entre 3 et 20 dollars, tu vois, tous les mois, et ça lui fait un bon revenu, tu vois, pour, ouais, financer le podcast et gagner sa vie normale. Je me demande pourquoi tous les podcasteurs qui ont une audience, ou même les créateurs, se disent pas c'est plus simple de faire ça, en fait. Même toi, au final, tu pourrais faire des conférences et les gens payent leur place et
ouais, c'est fini, alors la vérité, c'est parce que c'est compliqué à organiser, en fait. C'est pour gagner autant d'argent que ce qu'on te donne dans une conf corporate. Faut vendre beaucoup de tickets, faut faire du marketing, il faut puis les gens ils aiment bien te regarder gratos sur YouTube aussi, donc c'est effectivement de toute façon les business models de créateurs, puis moi c'est pas mon métier, il y a plein de gens dont c'est le métier et c'est vrai qu'il y a une galère générale dans l'économie de la création et ce qu'on appelle la passion economy maintenant, qui est que effectivement les utilisateurs sont pas forcément prêts à payer. Alors il y a des petites justices qui me font rire, moi par exemple. Personne n'a jamais voulu payer pour un DJ set sur SoundCloud, mais de toute évidence, tout le monde paye pour OnlyFans. Donc il y a des, ouais, espèces de retours de bâton. Mais bon, Patreon, c'est un bon exemple. Il y a des trucs vraiment. Moi, je regarde les Patreons auxquels je donne. C'est vrai que même moi, je suis quand même très radin, quoi. Enfin, alors que je paye des trucs débiles et tout, mais dès que c'est un Patreon, tu dis ouais, c'est tous les mois et tout. Par exemple, il y a un mec là qui fait des mangas, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est vraiment mon Patreon préféré. Et il a un système sur Patreon où il ne publie un nouvel épisode que s'il atteint un montant. Et tu mets librement ce que tu veux. Et tu vois, je crois que le montant standard c'est 15 dollars ou 10 dollars, tu sais, qui est pré-rempli. Moi, je donne toujours ce montant-là. Et la dernière fois, je voulais vraiment vraiment avoir le prochain épisode et tout, et puis il restait, je sais pas, à 90 dollars, quoi. Franchement, je pouvais les donner, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu les mets pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ta life à si peu valoriser leur travail, en fait? Et c'est vrai qu'on a tous tendance, c'est ce qui se passe quand on pirate un film. Tu vois, quand on dit aux gens, faut pas pirater les films, les mecs, ils ont pas de budget pour créer les films. Ça ronfle. Tu te dis, mais ça va, laisse-moi tranquille. C'est pas ma place qui va faire la différence et tout. Mais en fait, collectivement, c'est, mais on est hyper hypocrite sur ces trucs-là. Hyper, hyper hypocrite. on veut pas que les créateurs soient trop riches. Pourtant, c'est un domaine où normalement, s'il y a bien un domaine où les gens devraient devenir massivement riches, c'est la création, parce que c'est scale à l'infini.
Ouais.
Tu vois, 1 million d'épisodes, 1 milliard d'épisodes, c'est le même travail. Mais bon, on préfère que Zuckerberg devienne riche qu'un créateur de podcast. Bon,
c'est fou, hein, puisque c'est de tout temps. Parce que quand tu me dis ça, moi, je vois le peintre à Montmartre qui vit d'un bout de pain contre ses tableaux, tu vois, et maintenant les tableaux valent des millions.
Alors, j'ai une théorie là-dessus. Ma théorie, c'est que les gens veulent punir la passion. Ma théorie,
par jalousie, genre, parce qu'eux n'ont pas pu faire leur passion.
Ouais. Moi, je pense que tu te dis, attends, ça va, le mec, déjà, il kiffe sa life. En plus, il va pas avoir de l'argent, quoi. Tu vois, il y a un côté.
Ouais, puis c'est comme les graphistes qu'on harcèle tout le temps avec des partenariats de visibilité au lieu de juste leur payer leurs prestations.
Ouais, exactement. Ouais, il y a un côté, bon, bah, ça va, enfin, c'est du kiff. Arrête de m'emmerder.
C'est ça. Ouais. Et justement, on parlait des conférences. Comment toi, tu... Déjà, parce que c'est un peu le sujet principal du podcast. Et moi, d'habitude, j'invite des humoristes qui font du stand-up. Moi, ça fait 5-6 ans que je fais du stand-up. Et on parle justement de la vie d'humoriste, de quand tu montes sur scène, etc. Toi, t'as fait une fois du stand-up et j'étais là.
C'était bien.
Ouais, c'était cool. Et justement, comment tu, de manière générale, comment t'es monté par exemple sur scène la première fois devant un public.
Ma première fois, c'est catastrophique. C'est une histoire. Ça a limite l'air de storytelling en fait. Tu vois, mes histoires sont des storytelling, pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je venais d'arriver à Paris. J'étais personne. À l'époque, je faisais des sites internet, des petits trucs à droite, à gauche. J'étudiais la philo. Enfin. Et puis, je vivais rue Dauphine, dans le 6e arrondissement, dans un immeuble. J'avais un petit studio, mais j'étais dans un immeuble magnifique. Et donc, tous mes voisins étaient des mecs de ouf. Quoi. J'avais même Christine Scott Thomas comme voisine, tu vois, Saint-Germain et tout. Alors, moi, c'est ce qui m'avait toujours fait rêver à Paris. Puis moi, j'ai toujours été le genre de mec à vouloir vivre. Je préférais vivre dans beaucoup plus petit et pourri dans une adresse comme ça que d'avoir plus grand ailleurs, quoi. Et un jour, je suis dans l'escalier comme ça, et puis un mec, il m'a rien fait. Hey, petit, t'es pas sur l'internet, toi? Je dis, si. T'y connais quelque chose au numérique? Il dit, ouais, il dit, écoute, je travaille là pour une grande agence. Tu connais McCann? Je dis non, j'ai jamais entendu. Ouais, bon, bah, peu importe, c'est une grande agence américaine. Je suis le patron Europe de cette agence. Et il me dit, là, on m'a dit, il faut que j'organise une conf sur la tech. Moi, j'y connais rien. Il faut qu'on invite des gens. Et puis, bon, t'as un nom arabe, ça fait case diversité, jeune tech. Franchement, tu rentres dedans. Tu prendrais combien pour venir faire une conf? Mais je sais pas faire de conf. Si, tu sais faire des conf. Et je lui dis, bah, je sais pas. Il me dit, bon, allez, je te donne 2000 euros, ça te va? Il me dit, j'ai 2000 euros. C'est qui ce taré? Et il me dit, bon, bah, c'est au Martinez à Cannes et tout. On va organiser ça. C'est la semaine prochaine. Bon, j'étais d'accord. Il me dit, bon, il faut que tu calls quelqu'un dans mon équipe pour lui dire de quoi tu vas parler. Alors j'appelle un type. Il me dit, voilà, oui. De quoi vous allez parler et tout? Alors je dis, bah, je sais pas moi, de quoi je vais parler. Il me dit, vous avez déjà parlé sur scène? Je dis, non, si vous inquiétez pas, c'est un petit comité, il y aura 1000 personnes dans la salle. Puis il y a la tension qui commence à monter. Et le mec, il me dit, bon, bah, vous savez quoi, c'est hyper important de parler de votre histoire, des sites web, des machins, je sais pas quoi. Il me dit, bon, on va faire un truc là-dessus. Et ils envoient un mec qui était un storyteller, et puis il me fait un plan de conf. Tu vois. Bon, je me dis, putain, c'est quand même vachement bien organisé tout ça. J'arrive à Cannes, première fois de ma vie dans un 5 étoiles, Martinez, c'était incroyable. Et j'arrive au dîner des speakers, et je me dis, c'est marrant, il y a quand même pas mal de mecs dans cette pièce, j'ai l'impression de les connaître. Et puis je regarde, là, il y a un blond, tu vois, et puis c'est Richard Branson, le mec de Virgin. Puis je regarde comme ça là-bas, puis je me dis, putain, c'est Bill Gates. Et le mec, il vient me voir et il me dit, écoute, salut, tu vas bien? Je dis, ouais. Il me dit, bon, on t'a mis dans le programme à un spot super, tu passes demain après Richard Branson, juste avant Bill Gates, tu les chauffes bien. Et quand il m'a dit ça, impossible de dormir. J'ai passé la nuit à tourner, je suis arrivé déglingos à la conf. J'avais le cœur qui battait, j'avais la respiration qui machin. Et je suis arrivé sur scène. Il y avait Richard Branson qui sortait et qui me fait hey, comme ça. Et quand il a fait hey, comme ça, il y a la lumière qui s'est allumée dans ma gueule. Et la seule chose dont je me souviens, c'est de me réveiller à l'hôpital avec un masque à oxygène. Ah ouais. Et un mec qui me dit bougez pas, je crois que vous avez fait une embolie pulmonaire. Et ils m'ont gardé 3 jours à chercher une embolie pulmonaire qui n'existait pas. Et au bout de 3 jours, ils m'ont dit bah non, en fait, c'était juste le stress. Et je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre vraiment ce moment, la lumière, et j'ouvre les yeux à l'hôpital.
Parce et que avant ça, t'avais jamais, t'étais jamais, même genre, je sais pas, un exposé devant ta classe,
jamais,
comme ça.
Jamais. Peut-être une fois un exposé, mais. Ouais. J'avais fait une pièce de théâtre en sixième, je crois.
Mais t'avais pas l'appréhension avant de savoir si ça avait pas été Bill Gates.
J'en sais rien. Le contexte
était. T'as même pas posé la question.
Non, le contexte était tellement surréaliste pour moi. J'avais aucune préparation et tout. Mm-hmm. Et en fait, c'était trop. C'était beaucoup trop. Je pense que j'ai les nerfs qu'on lâchait. Et je pense qu'il doit y avoir une feature reset dans le cerveau, genre. Et donc j'ai perdu connaissance. Et ce voisin, il s'est devenu un bon pote, il en rigole beaucoup et il m'envoie souvent des trucs, il me dit ah putain, t'as vachement changé depuis Cannes. Et donc c'est la preuve en fait que tout s'apprend quoi.
Ouais. Puis que la barre est quand même pas très haute dans ce genre de conf quoi.
Ouais.
Moi j'en ai fait beaucoup, j'ai bossé dans l'événementiel et je me souviens une fois, pareil, une meuf qui parlait d'innovation de Facebook, de voilà. Et c'était tellement genre ennuyant, on se faisait chier. Et après, elle devait faire la même conf, mais en anglais. Et il y avait des traducteurs, du coup, parce que c'était mix dans l'audience. Dans ça, ouais. Et genre, les traducteurs, tu les écoutais, c'était trop bien. Juste traduit en français. En fait, ils arrivaient à rendre le truc éloquent et tout, tu vois. C'était incroyable. Ça m'avait marqué, ce...
Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, en France, on n'a pas beaucoup d'entraînement, quoi.
Ouais.
Les Américains, ils ont show and tell, tout ça.
Ouais, c'est ça, ils font toute leur scolarité, ils passent leur temps à parler, quoi, tout le temps.
Ouais, c'est sûr. Après, bon, tout s'apprend. Hein.
Et t'as mis combien de temps, justement, avant d'arriver à être juste à l'aise, sans parler d'être éloquent, juste pas t'effondrer sur scène, pas perdre tes mots, pas transpirer?
Ce qui s'est passé, c'est que des années ont passé, sans que je fasse aucune conf, machin. Et puis après, j'ai commencé à avoir des boîtes, des machins, d'être un peu plus, donc je pouvais pas dire non à tout, j'ai fini par dire oui à un truc. Et puis... Oui, c'était là je maîtrisais le sujet, j'avais un vrai truc à raconter, c'était pas un truc qu'un mec m'avait inventé et ça s'est mieux passé. Et puis j'ai commencé à y prendre du plaisir et puis après The Family, ça a été le The Family, j'en ai fait tellement que tu vois, il y a un moment où ça devient une seconde nature quoi.
Ouais, les moments les plus grosses périodes, tu montais combien de fois par mois sur scène?
Bah au début quand je charbonnais les 3 premières années de The Family, je faisais 2 à 3 events par jour.
Par jour? Ah ouais. Et tu racontes à chaque fois des trucs différents?
Ouais, alors, ça, c'est un truc que je me suis fixé comme règle dans The Family, c'est pour pas devenir fou. Je prépare jamais, et donc si je me répète, c'est que je m'en rends pas compte. Donc, évidemment, je radote, hein, tout le monde radote, mais comme j'en ai pas conscience, c'est pas grave. J'ai vraiment l'impression de dire un truc nouveau à chaque fois.
Et du coup, comment tu prépares ces confs là?
En fait, c'est ma vie qui me prépare. En fait, je me dis que je suis tout le temps en conf.
Mais tu prépares quand même un sujet
Non. En général, la conf a un sujet.
Ouais, voilà ça.
Et donc voilà. Après, je lis plein de choses, machin, mais je sais pas. Le truc me vient assez naturellement sur scène.
Ouais, en fait, tu fais une conf comme tu répondrais à une question dans une interview, quoi.
Exactement.
C'est la question, exactement. Tu poses la question au moment où tu montes sur scène, quoi.
Exactement.
Ok. Et est-ce que tu fais, il y a beaucoup de speakers qui font ça, et même dans l'humour, c'est hyper important d'arriver à voir ça, d'analyser ton audience. C'est-à-dire de savoir devant qui tu parles. Parce que moi, j'ai fait, par exemple, tu vois, dans l'humour, il y a des comedy clubs, puis il y a des petites scènes ouvertes où tu joues devant un public, tu vois, de gens totalement que t'as pas choisi, qui viennent pas pour toi, parce que il y a plein d'humoristes dans la soirée. Et des fois, t'as des vannes qui marchent bien parce que t'as l'habitude de jouer, je sais pas, à Barbès, devant un public un peu mix, voilà. Puis un jour, tu vas jouer dans un club, un open mic en banlieue où c'est un public 100% noir ou arabe banlieue, tu vois. Et d'un coup, tes blagues marchent plus parce que tu t'es habitué en fait à faire rire un certain public. Et eux, en fait, ils ont pas du tout le même humour, tu vois. Eux, ils vont aimer, tu vois, des trucs beaucoup plus directs, je sais pas, tu vois. Mais et certaines vannes, par contre, vont beaucoup mieux marcher avec ce public-là, tu vois. Est-ce que t'as ce truc-là avec...
Ouais, moi, j'ai une petite astuce, c'est que je pose, quand je connais pas mon audience et que je sens pas mon audience, je pose des questions.
Au début, tu vas à main levée.
Qui est entrepreneur dans la salle, qui machin. Je fais souvent cette...
Et comment tu t'ajustes, du coup, en fonction de...
Bah, je change de champ lexical.
Ajuste ça.
Ouais. Ça marche bien. C'est en fait le langage est une barrière et en fonction du type de langage que tu utilises, t'as plus ou moins une autre audience. Plus l'audience est mainstream et plus tu dois avoir un langage commun. Et plus l'audience est spécialisée, plus tu peux jargonner. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah jargon machin ça sert à rien, mais bien sûr que si ça sert à quelque chose le jargon, sinon ça n'existerait pas. Le jargon c'est d'abord une forme d'appartenance. T'as fait 15 ans d'études de médecine, t'as pas envie que le premier convenu comprenne ce que tu dis. Alors ça peut paraître mesquin, gamin, pas aware ou ce que tu veux, mais il n'empêche, il faut bien que t'aies des retours sur investissement de ce que tu fais, quoi. Et puis, ça permet d'être plus précis. Quand tu expliques quelque chose en mainstream, par définition, comme tu n'utilises pas un jargon, bah, tu as des concepts plus généraux, en fait.
Ouais, il te faut une phrase pour expliquer un mot. Quoi.
Exactement. Et puis surtout, quand tu maîtrises les mots, tu maîtrises aussi les concepts sous-jacents. Donc c'est ça. Mais en général, simplement voir dans mon audience pour changer mon...
Mais est-ce que c'est juste le jargon ou c'est aussi de ta façon de parler? Genre, si tu parles devant des étudiants, tu vas faire parler plus jeunes, plus cool.
Ouais, alors c'est ce que j'appelle le champ lexical, moi. C'est, ouais. Ça, tu peux changer ton ton, tu peux changer le type d'humour que tu fais. Ouais. Et alors ça va, j'ai un bon instinct. J'ai eu quelques erreurs d'analyse. Ou des fois j'ai eu des où je savais que c'était pas l'audience pour parler comme ça, mais ça me gonflait, alors je l'ai fait quand même. Mais ça c'est des petites rébellions, notamment une conférence collector en Tunisie où dans la salle c'était il y avait la moitié de la salle qui était des jeunes entrepreneurs et l'autre moitié de la salle qui était les bourgeois locaux. Et donc j'ai pris un malin plaisir à leur taper dessus, quoi. Et vraiment c'est la seule fois de ma vie où ça arrivait, la moitié de la salle s'est barrée pendant ma conf. Et je voyais les gens se lever un par un, furax, partir. Et plus ils se levaient et partaient, plus moi j'étais mort de rire. Et donc je savais que l'autre moitié de l'audience, ils étaient déchaînés. Ils se sont dit, mais il est complètement fou. Il y a un mec qui est venu, il m'a dit, mais t'as pas peur de te faire arrêter par la police,
ouais. Il faut faire un choix parfois.
T'es un grand malade et en fait, bon, il faut faire des choix, quoi.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et comment tu regardes aussi ton public quand tu fais ta conf? Est-ce que tu préfères être aveuglé par les lumières et tu
joues
t'aimes bien les regarder?
Je supporte pas quand je suis aveuglé par les lumières. Je peux pas. Il faut que je vois les gens.
Ouais, c'est un dialogue pour
c'est
toi.
C'est un dialogue. Ouais. C'est vraiment un dialogue. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire des trucs face cam et j'ai eu beaucoup de mal là pendant le confinement à faire des confs en ligne. Tu vois ta gueule,
ouais.
C'est qui ce mec là qui parle? Mais bon, après on s'habitue à tout. Hein. Facecam, la dernière saison de Coup d'État Covid, je l'ai tourné facecam avec Valentin. Et franchement, elle est bien. Donc j'ai fini par apprendre à faire du facecam.
Tu vois, là, du coup, t'as plus préparé ou c'était pareil, même principe?
Non, alors j'ai préparé différemment. Pour faire du facecam, il faut faire des épisodes. En fait, j'ai compris que l'astuce pour faire du facecam, c'est faire des épisodes très courts et très punchy et d'en faire plein. Plutôt qu'un long. Et résultat, comme ça, le fait que l'énergie baisse parce qu'il n'y a pas de public, je le trouve ailleurs, tu vois.
Okay.
En reparlant avec Valentin, en faisant une blague, machin, tu vois. Et hop, tu remontes. Donc, ouais. J'ai trouvé cette astuce. Et pour les confs en ligne, j'ai trouvé l'astuce de tout simplement écrire un prompteur.
Ah ouais.
Donc, j'écris les titres des sujets dont je veux parler et je les suis. Alors évidemment, il n'y a pas les textes entre.
Ok, d'accord. Si tu m'as dit prompteur, moi
non,
je
mais, c'est, mais c'est vraiment en mode prompteur. J'ai les titres en mode prompteur qui tournent. Et ça me donne le rythme, en fait. Et à chaque nouveau titre, ça me permet de me re-énergiser, en fait. Tu vois.
C'est marrant, c'est exactement ce qu'on fait dans le stand-up. Même des fois, tu quand tu joues dans les clubs, tu le notes sur ta main, en fait. Ça fait relou d'avoir un papier. Tu notes sur ta main et t'as ok le mot clé beat, le mot clé toilette et le mot clé voilà, c'est mes trois blagues de trucs et t'enchaînes comme ça, quoi. C'est marrant. Et justement là toi la suite ça, tu la vois comment? Ça te manque de faire des confs?
Non, alors moi j'avais arrêté, j'ai arrêté les confs payantes il y a un an.
Ok.
J'en accepte plus. Et les confs maintenant, ce que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de faire des confs en ligne de qualité, parce que ça ouvre des audiences incroyables. Et donc là, dans les 18 prochains mois, je vais vraiment produire du contenu en ligne. Donc, je pense que je vais trouver un moyen de d'avoir un rendez-vous régulier que sur lequel les gens peuvent se connecter. Mmh. Et alors, j'adore les Q&A en ligne. Ça, c'est vraiment ça, c'est mon kiff. Les gens posent 100 questions et tu vois, je réponds meilleur.
Et ça te manque pas ce truc justement de pas aller voir du coup ?
Non, non. Après, c'est une nouvelle phase. Je suis excité par cette phase et ce que j'y gagne est beaucoup plus fort que ce que j'y perds.
Okay.
Donc j'y perds ouais de la chaleur humaine et tout, mais bon ça va. J'ai une meuf. Je m'en fous, quoi. Mais j'y gagne. Tu vois là, j'ai fait une conf devant 1900 personnes en Russie. D'abord 1900 personnes dans une ville, faut y aller. C'est le pouvoir du en ligne. Et puis au fin fond de la Russie, quoi. Enfin, ça te permet d'aller chercher des marchés émergents, des underdogs, des gens que personne ne reconnaît, quoi.
Et le format podcast, t'as déjà pensé?
Ouais, alors problème du format podcast. Alors j'ai pas envie d'interviewer des gens. Faire un truc suffisamment régulier où je tourne une émission et tout, peut-être c'est la prochaine frontière. C'est peut-être la prochaine frontière. Il y a un truc qui est que faire une émission, un machin, quand il n'y a pas un invité et que tu parles tout seul, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de ressources créatives, quoi.
Ouais, c'est ça.
T'as peur de la page blanche, etc. Et puis moi, je suis un mec de la dernière minute. Je vais pas. Si je fais ça, je vais pas le préparer en avance.
Bah, c'est ça qui est bien dans les podcasts, c'est que t'as pas besoin de préparer, quoi. C'est ton invité qui prépare.
Oui, mais j'ai pas envie d'aller interviewer les gens, moi. C'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. Je sais pas faire. C'est pas. Il faut quand même. C'est quand même un talent, tu vois, de pouvoir interviewer les gens. Après, il y a d'autres formats en ligne qui sont marrants, tu vois. Les lives, donc, c'est très sympa. Les Q&A, Ask Me Anything, c'est très, très, très sympa. Et puis, je pense qu'on va commencer à faire un nouveau type de vidéo face cam, un peu dans la série Coup d'État Covid, en mode capsule. Très régulière. Ça, je pense que ça peut et les pousser avec de la distribution en ligne dans des zones très particulières, tu vois, des géographies dans lesquelles normalement personne ne va. Moi, ça m'enthousiasme vachement l'idée que The Family nouvelle version va aller chercher le top 1% partout dans le monde, quoi. Ça rend le truc super enthousiasmant.
Ouais, parce que là, pour expliquer un peu The Family et pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas forcément, comment tu résumerais The Family?
The Family, c'est très simple. C'est un groupe de personnes qui aident des gens à faire leur boîte et qui, en échange de cette aide, prennent un pourcentage plus ou moins élevé. C'est tout bête.
Et l'aide, ça peut être hyper large, quoi.
Ouais, et l'aide, ça peut être hyper large. Et surtout, ce qui compte, c'est pas de faire des choses... c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue. Les entrepreneurs ont tendance à vachement valoriser la valeur perçue. Donc, moi, je le vois à The Family. Les gens, ils me disent « Ah, vous nous avez vachement aidé sur la levée de fonds. » Ah, c'est la valeur perçue, ça. La vérité, c'est qu'ils auraient levé sans nous. En fait, ils en rendent pas compte. Mais et puis, en fait, la levée de fonds, c'est pas truc. Mais par contre, te répondre à 3h du matin en plein Covid parce que t'es angoissé à l'idée de virer des gens, ça, c'est de la valeur réelle. Et ça, c'est très compliqué à expliquer avant que tu le vives. Et donc, la stratégie marketing de The Family, c'est d'attirer des gens par la valeur perçue et espérer qu'ils se rendent compte de la valeur réelle. Et c'est sûr que c'est pas facile. Il y a beaucoup de moments ou de boîtes où t'arrives pas vraiment à faire des choses. Tout bon, c'est pas très grave. Il faut vivre avec. Mais c'est vrai que quand t'es game changer pour une boîte, t'es game changer. Et nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'être game changer, c'est de trouver l'astuce, la rencontre, le business model, le sujet qui est un on-off avant et après, quoi. Et après, bah, l'entrepreneur, il vit sa vie, tu vois. Il n'a pas besoin d'une maman. Ouais, ça s'appelle The Family, ça s'appelle pas Mom and Dad, tu vois.
Ouais, puis l'avantage pour l'entrepreneur, c'est que vous avez une vision 360, enfin, j'aime pas 360, c'est périphérique, quoi. Vous avez vu plein de startups, donc vous avez le recul que lui n'a pas, quoi.
On est les insiders d'insiders, ouais. Ça, c'est vrai que notre niveau d'info est incroyable. Moi, j'ai tous les ans, il y a 1000 personnes qui deviennent mes profs particuliers, quoi. Donc, forcément, tu finis par comprendre un ou deux trucs. Même si t'es très con, il y a tellement de gens qui t'expliquent tellement de trucs que tu finis par savoir des choses intenses.
Ouais, et donc là, vous aviez tenté d'ouvrir des locaux en Europe, dans notre ville.
Ouais, alors on n'a pas tenté, on l'a fait.
Vous avez tenté d'internationaliser en ouvrant des locaux.
Ouais, ouais, on avait un bureau à Berlin, à Londres, à Bruxelles. Mais le problème, c'est que ces bureaux n'étaient jamais aussi grands que le bureau de Paris, n'étaient jamais aussi fun que le bureau de Paris, n'étaient jamais... Puis quand t'es dans le bureau de Berlin, t'es pas dans le bureau de Paris. Quand t'es dans le bureau de Paris, t'es pas dans le bureau de Londres. Et alors, les gens, ils sont toujours là à voir là où tu n'es pas, en fait. Et ne jamais voir là où tu es. Donc à Paris, ils ont eu l'impression qu'on était moins là. Et là-bas, ils ont eu l'impression qu'on était trop ici. Donc c'est perdant. Et c'est pour ça que moi, ça me gonflait, cette histoire de bureau. Je me suis dit, en fait, on avait deux choix. Soit on devenait franco-français, et on assumait que The Family était une boîte franco-française. Et si c'était ce qu'on allait faire, et ben je pense que j'aurais quitté The Family. Je ne serais pas resté. Soit on devenait global et on se débarrassait des bureaux. Quand on a eu cette conversation il y a un an et demi en équipe, personne n'a voulu vraiment faire face à ça. Tu vois. Ils ont dit, on va trouver une autre solution, on va trouver un machin, on a essayé des trucs, quoi. Puis le Covid est arrivé, on est passé 100% en ligne. Et quand on est passé 100% en ligne, tout le monde s'est dit, mais en fait, pourquoi on a un bureau? C'est quoi le trip? À part le trip d'ego. Et alors, je pense que ce bureau a participé à notre légende. C'est cool. Les gens qui ont connu s'en souviendront avec nostalgie, diront, ah là là, l'époque où The Family avait un bureau, machin. Mais moi, je suis pas du tout nostalgique. Je sais pas ce truc. Je vis pas dans le passé. J'aime pas ça. Je vis dans le présent. Donc, voilà, on vend tout et on part faire autre chose, quoi.
Tu penses à des mots, tu veux vraiment rester 100% en ligne, il y a aucune chose qui te fera revenir sur scène pour faire des confs peut-être mix online.
La vie est longue et pleine de mystères. Ouais. Je pense que là on a une fenêtre d'un an. Dans cette fenêtre d'un an, il va falloir vraiment être discipliné et faire en ligne pour vraiment faire décoller. Et quand ça aura décollé en ligne, on pourra faire plein de choses. Tu vois, il y a pas de. Mais c'est une question de focus. Là, le focus, c'est de réussir en ligne. Donc, si on commence à dire, vas-y, le focus, c'est de réussir en ligne, mais on va faire un petit truc par-ci, un petit truc par-là, on va juste commencer à rentrer dans le truc du ah, mais tu vois, c'était quand même mieux, ah, tu vois, c'était plus facile, machin. Et pas question. On s'est donné 12 à 18 mois. Et pendant ces 12 à 18 mois, on va mettre une énergie en ligne comme on n'a jamais mis dans notre vie. Point. Quel va être l'outcome de ça? Est-ce que The Family va être mieux ou moins bien? J'en sais rien, c'est le risque. Si The Family est mieux et qu'on a gagné notre pari, on pourra se faire des kiffs. Tu vois, on fera un séminaire annuel de The Family, on fera le The Family Summit dans un hôtel 5 étoiles. Et une fois par an, on invitera tout le monde en physique et on fera des gros stuff. Parce que c'est pas parce qu'on a plus de bureau qu'on va plus faire de teuf. C'est même beaucoup mieux pour la teuf. Parce que maintenant qu'on a plus de bureau, au lieu d'emmerder que nos voisins, on va pouvoir emmerder tout le monde partout. Tu vois, ça m'excite bien, ça. Mais, et si il s'avère que c'est un raté, qu'on a perdu, machin, et bah, peut-être qu'on arrêtera The Family. Peut-être qu'on se dira, bon, bah, voilà, on a essayé, on a un beau portefeuille, maintenant, on va se reposer et faire autre chose. Parce que ça voudra quand même dire que j'ai donné 10 ans de ma vie à The Family. Et ça va. Soit on se dira, en fait, il faut réouvrir un bureau, machin. Peut-être qu'on aura une autre énergie à ce moment-là.
Ouais.
Mais c'est un truc auquel j'ai pas envie de penser. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de dire à tout le monde dans l'équipe, on a 18 mois devant nous pour donner le meilleur de nous en ligne. Apprendre des choses qu'on ne sait pas faire. Tu vois, là, maintenant, on fait du SEO, on fait du SEM. On va lancer un nouveau site internet où on va avoir un funnel avec des gens. On va lancer un produit d'abonnement en ligne dans l'éducation. Tiens, on va faire un produit en ligne. On va faire une boîte hyper intéressante. Ça marche. Alhamdoulilah, ça marche pas. Bah, tant pis. Enfin, c'est pas. Il y a pas de problème en fait. Et je trouve ça plus enthousiasmant que l'alternative qui est de prendre un crédit et essayer de maintenir un bureau pour faire pour animer la galerie. Et d'ailleurs, enfin, moi, ça me fait rire. Moi, tous les articles qui sortent en ce moment et tout, ils me font rire parce que ça montre quand même que fondamentalement, il y a personne qui comprend ce qu'on fait. C'est un truc. Et alors, c'est pas faute de l'expliquer. On prend 5% dans 100 boîtes par an. Qu'est-ce qu'on en a foutu d'avoir un bureau? Si tu me dis, tu peux prendre 5% dans 100 boîtes par an avec ou sans un bureau, c'est par définition vachement mieux de pas avoir de bureau.
Bien sûr.
Parce que ça veut dire que tu gagnes plus d'argent avec les 100 boîtes. Mais sauf que les gens, ils réfléchissent pas comme ça. Ils disent le bureau, c'est l'incarnation de la réussite. C'est statuaire.
Ah bah oui.
Et vous êtes
Trump
en train.
Trump Tower.
Et vous êtes en train de perdre du statut. Et si vous acceptez de perdre du statut, c'est que vous allez mal. Bah non. On accepte de perdre du statut puisqu'on est des pirates. Et qu'on n'a pas peur de ça. Et c'est fou, hein. Genre, jusqu'au gouvernement français hyper sympa qui nous a appelé en nous disant, dites-nous combien et on vous donne. Et on leur a dit, bah, zéro. Merci.
Mais d'ailleurs. Ils sont prêts, on vous donne pas.
D'ailleurs, c'est hyper adorable de leur part. Ils sont quand même très, très engagés. Mais je pense pas que ce soit sain. Je pense pas que ce soit sain de dire, bah, tiens, viens, on va prendre de la dette pour faire tourner un bureau dans lequel on peut pas organiser d'event. On sait pas quand est-ce qu'on organisera des events. Et en plus, les mecs qui faisaient des events, ils en ont marre d'en faire. Tu sais. Ouais. Donc, vas-y, viens. On finance tout ça à dette.
Mais est-ce que vous étiez pas une boîte online sans le savoir, en fait? Parce que regarde, la chaîne YouTube, ouais, même si j'ai l'impression que ça marchait un petit peu moins depuis que c'était en anglais.
Ouais.
Ça quand même, enfin moi c'est comme ça que je vous ai connu. Tous les gens qui connaissent The Family autour de moi, ils vous connaissent via la chaîne YouTube, via les conférences que vous avez faites en ligne. Donc est-ce que si ces conférences là, il y avait pas eu de public, ça aurait changé quelque chose?
Moi c'est ma théorie. Ma théorie c'est qu'il aurait rien changé.
Ouais.
C'est dur de savoir parce que il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés parce qu'on avait un gros bureau. Ça c'est vrai aussi. Et maintenant est-ce que les gens auront toujours besoin d'un gros bureau pour nous écouter? Je pense que non, mais je comprends. Tu vois, il y a un mec qui a fait une newsletter sur nous en disant, ouais, s'ils ferment leur bureau, c'est que ça marche pas. Est-ce que vraiment j'ai envie de prendre des parts d'un mec qui peut pas payer un bureau? Tu dis, bon, écoute, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre des parts d'un mec qui écrit un truc aussi con? Je te retourne la question. Donc non, évidemment, le bureau, c'est le symbole d'un ancien monde, quoi. Après, les destructions de symboles ont eu lieu en plusieurs étapes. C'était inimaginable pour un patron avant de pas avoir son bureau de 200 mètres carrés avec sa secrétaire à l'entrée.
C'était son statut, c'était pareil.
Ouais. C'était son statut. Puis après, les mecs, ils ont dit non, mais en fait, on veut avoir un étage de la direction. Donc après, ils ont dit ouais, on va être dans un open space comme monsieur, madame, tout le monde. Et après, ils ont dit putain, il y a quand même du bruit. Je vais aller dans ma maison de campagne, mais en ligne, nous sommes tous égaux. Et alors, c'est vrai que ce côté remote, il a un truc vachement drôle, quoi. C'est que ça permet les inégalités. Ça permet les inégalités inavouées et tout à fait assumées.
Ouais.
Parce que t'es dans ta villa, t'as ta piscine et tout, tu caches un peu, tu te mets derrière ton mur, et puis, une fois que t'as fini dans ton truc, tu vas plonger.
T'entends des fois quand t'es en rendez-vous client, le bruit de la piscine à côté et tout. Toi, t'as les gars qui te disent en bas de ton bloc, t'es là, bon, bah, cool.
donc non, c'est à la fin, c'est toujours le même sujet, quoi.
Mm-hmm. Bon, bah, écoute, c'était super, super rencontre.
Merci.
Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre.
Effectivement.
On est arrivé genre deux semaines avant le Covid.
Avant le Covid, ouais.
Donc l'onboarding, génial. Je crois que je suis jamais allé au deuxième étage. On nous a dit, vous, c'est la cave. Et depuis, on est là.
Bon, bah, vas-y vite, hein, parce que.
Ouais, c'est ça. Non, mais on est très reconnaissants. En vrai, c'est sympa. Je sais pas qui va reprendre les locaux, mais moi je suis chaud pour lui relouer la cave.
D'accord.
Parce qu'on est bien ça. En fait, on est isolé niveau pour un studio, c'est vraiment bien. Ah,
c'est
en
vraiment
fait.
Bien fait.
On dirait que vous avez été visionnaire quand vous l'avez rénové il y a pas longtemps.
Ouais,
en plus.
On l'a rénové pour faire une salle de cours.
De cours. Ouais. Bah voilà, c'est parfait pour nous.
Carrément.
On est très bien ici.
Bon bah génial, faites un max d'émissions. Ça, yes. Elles deviendront collector.
C'est ça. Bah on va te réinviter très vite.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir suivi BlaBlaClap et à très bientôt.